Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question de Marcel Legault. Ça peut surprendre quelques personnes, mais c'est un laïc catholique remarquable qui est mort il y a à peine 7 ans. Il est mort en 1990. C'était un philosophe, d'accord, mais aussi un berger, un paysan, quoi. C'est un maître de vie, c'est un très grand éveilleur. Il a éveillé des dizaines de milliers de personnes. Il a intéressé beaucoup de prêtres, dont en particulier le père Henri du Halgouët. Le père Henri du Halgouët a publié chez Médiapol, donc chez les Pères de Saint-Paul, on retrouve leur librairie ici à Montréal sur le boulevard Henri Bourassa dans l'Est, mais il y a aussi les Filles de Saint-Paul sur Saint-Denis et d'autres libraires qui ont certainement le livre du père Henri de Halgouët. H-A-L-G-O-U-E-T. Le titre, c'est « Un chrétien debout, Marcel Legault et sa mission ». Avec une belle photo de Marcel Legault, avec son béret, toujours, il avait toujours son béret, cette espèce de moustache poivre et sel, un vieux chandail élimé, tout habillé très pauvrement, très simplement. Et puis il a vécu comme un paysan, lui, qui était un grand professeur de mathématiques. Donc le livre « Un chrétien debout, Marcel Legault et sa mission », paru en 1995, je m'en inspire, mais je m'inspire aussi de toute une documentation que j'ai ramassée au cours des ans, et en particulier de ces livres, j'en ai toute une pile. Dans le temps où j'étais réalisateur à Radio-Canada, on me remettait souvent des ouvrages et très intéressants qui m'ont permis de faire beaucoup d'entrevues, comme vous savez. Et j'en profite pour remercier tous les éditeurs. Hein. C'est un étrange homme que Marcel Legault, mais c'est un homme passionnant. Donc, je vous ai dit qu'il était professeur d'université de mathématiques. Puis, à un moment donné, il lâche tout pour devenir berger, puis se retirer dans la montagne, au pied des Alpes. Puis, c'est un penseur chrétien, catholique, c'est un écrivain. Alors, il a publié beaucoup, beaucoup de livres. Si je vous donnais la liste, on n'en finirait plus. Ce qui est intéressant, c'est que sa méditation est centrée d'abord sur sa propre réalité d'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce qu'il est, lui? Et surtout, c'est centré sur la personnalité de Jésus Nazareth, qu'il aime. Puis aussi sur l'histoire passée puis présente de l'Église catholique. Ça l'intéresse énormément, l'Église catholique. Très attaché à cette Église, très convaincu, mais très critique. Ça le conduit d'ailleurs à une démarche de réflexion de plus en plus profonde, hein, qui va jusqu'à l'essentiel. Et c'est ça qui est passionnant dans ses livres, comme un de ses livres, un de ses premiers livres, « L'homme à la recherche de son humanité », qui est paru chez Aubier. C'est un livre absolument passionnant, qu'on lit et qu'on relit. Et puis, comme il était intéressé à l'Église, alors il a aussi publié, en 75, celui-là, « Mutation de l'Église » et « Conversion personnelle ». Voyez-vous, il souhaite que l'Église se transforme, mais c'est très important qu'il y ait une conversion personnelle. Qu'est-ce qu'il entend par ça? C'est que l'essentiel se résume en la foi en soi, mais surtout en la foi en Jésus, qui dépasse là, toutes les croyances dogmatiques pour lui. C'est un amour pour Jésus. Croire vraiment en Jésus, celui qu'on lit dans les évangiles. Et en cette fin de 20e siècle, évidemment, l'Église, il s'en est rendu compte, il n'était pas le seul, l'Église catholique connaît une crise épouvantable dans toutes nos sociétés occidentales. Il résume en somme la question en disant que les chrétiens qui sont déroutés par la perte des anciennes sécurités, mais ils flirtent avec toutes sortes de valeurs puis des pratiques de la société dite libérale. Alors on peut se permettre un peu n'importe quoi. Ou bien les chrétiens prennent simplement leur distance avec cette institution qu'est l'Église catholique qui, d'après eux, selon eux, ne leur offre plus rien. Ça ne les nourrit plus. Et c'est triste. Parce qu'au fond, l'Église est tellement riche, même aujourd'hui, tellement riche. Ne serait-ce qu'à la messe de tous les jours, les textes sont extraordinaires, et tout ce qui se publie, mais surtout, elle est porteuse de l'Évangile. Et quand on a l'Évangile près de soi, puis qu'on le lit tous les jours, quelle richesse! Et c'est dans un tel contexte, donc, que Marcel Legault a travaillé au cours de sa vie, puis a réfléchi pour que les chrétiens deviennent, c'est ça la clé, disciples de Jésus. Vraiment des disciples de Jésus. Puis que l'Église, selon lui, redevienne une communauté de foi. Une vraie communauté de foi, plutôt qu'un espèce de groupe de pratiquants, entre guillemets, qui ne savent pas au juste ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils devraient mettre en pratique. Or, le 6 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1990, à l'arrivée d'un train à la gare d'Avignon. Avignon, je ne sais pas, c'est au sud de Paris, là, à 650 kilomètres à peu près, c'est sur le Rhône, hein? C'est là, à Avignon, que les papes, il y a des siècles, ont résidé pendant 70 ans, vous vous souvenez. Alors donc, à l'arrivée d'un train à la gare d'Avignon, le 6 novembre 1990, il y a un homme âgé, mais encore très capable de voyager seul, qui est victime d'une crise cardiaque foudroyante. Il meurt pratiquement sur place. Et pour la plupart des témoins, bien c'est un fait divers. Un fait divers, bon, ça arrive souvent, hein. Mais quand la nouvelle de la mort de cet homme, Marcel Legault, parvient à sa famille, puis à tout ce monde, dans toute la France, à travers l'Europe, et même plus loin, même ici au Québec en particulier, où on l'admirait beaucoup, mais c'est un choc douloureux. Malgré ses 90 ans, bien sonnés, il paraissait encore plein de vitalité. C'était un homme qui était maître de sa pensée, maître aussi de sa parole, hein. Je l'avais rencontré à Lyon alors que je donnais des cours de télévision dans une école internationale près de Lyon, et lui-même donnait des cours, et j'étais extrêmement impressionné par son humilité, sa simplicité, mais aussi sa fermeté. Hein. Et tout le monde pouvait espérer bénéficier de sa présence pour plusieurs années encore à ce moment-là, même s'il avait 90 ans, parce qu'il est né en 1900. C'est toute une surprise, sa mort. Mais on se console un peu partout à la pensée qu'il avait peut-être souhaité, peut-être demandé même à Dieu ce genre de mort. Pas d'infirmité paralysante pour ne pas déranger personne. Pas d'affaiblissement de ses facultés psychiques. Simplement un espèce de passage tranquille vers ce qu'il appelait souvent la maison du Père. Et comme ça, mourir d'un seul coup. Ses proches, ses disciples, ses amis auraient plutôt désiré l'avoir auprès d'eux pour les aider à mener une vie chrétienne adulte dans l'Église catholique, comme dans ce monde contemporain difficile à vivre. La situation de l'Église, et même du monde, semble réclamer des hommes comme Marcel Legault, avec force et urgence. De toute façon, il faudrait peut-être qu'on essaie de multiplier ou essayer de faire quelque chose, là, pour mettre la pensée de Marcel Legault à la portée de tant de femmes et d'hommes. Tant de gens qui sont affreusement déçus par toute la confusion qui afflige notre société occidentale post-industrielle. Il faudrait le faire aussi pour toutes les personnes dans le monde entier qui cherchent à tâtons des petits points d'appui un peu solides pour bâtir une vraie culture universelle. Mais qui donc était Marcel Legault? Je vous ai dit qu'il est né en 1900, il est né à Paris, donc au tout début du siècle. Son père était professeur. Et malgré l'atmosphère anticléricale qui régnait à cette époque dans son milieu, son père est demeuré catholique pratiquant régulier, au sans doute plus par tradition que par conviction personnelle, semble-t-il. Mais, par contre, sa mère avait une piété profonde, elle. Mais, évidemment, elle n'avait aucune culture théologique ou biblique, hein, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les catholiques n'étaient pas très, très versés dans ce genre de culture qui nous est arrivée, à nous, les laïcs, beaucoup plus tard. C'est arrivé avec tout le renouveau biblique dans l'Église et tous les changements, tous les cours de Bible que tant de prêtres nous donnent, et nous en avons un, Montfortin, n'est-ce pas, à midi et demi, qui nous donne d'excellents cours de Bible ici à Radio Ville-Marie. Je vous le signale, midi et demi, ne manquez pas ça. Hein. Et Marcel Legault, lui-même, s'est décrit souvent comme né enfant de cœur, il était comme naturellement catholique. Oh, d'accord, il fait toutes ses études dans l'enseignement officiel, qui est neutre, hein. Il n'y a pas de religion dans l'enseignement officiel en France. Il faut aller dans des écoles catholiques pour avoir un enseignement catholique. Et même dans cet enseignement, il était peut-être un peu anticatholique, mais il suit très régulièrement, lui, le catéchisme dans sa paroisse quand il est enfant, et même il reste fidèle à ce qu'on appelle le catéchisme de persévérance jusqu'à 19 ans. À son entrée à l'université. Qu'est-ce que c'est ça, le catéchisme de persévérance? C'est peut-être quelque chose qu'on devrait avoir plus intensément ici, hein, dans l'organisation de l'instruction religieuse en France, là, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au moins. Mais les enfants puis les adolescents, après leur communion solennelle puis la confirmation à 13 ans, là, ben, ils étaient invités à persévérer, quoi. C'est ça, le catéchisme de persévérance. Ils étaient invités à persévérer dans leur formation chrétienne, par des cours adaptés, évidemment. D'où le nom de catéchisme de persévérance. Alors, il persévère donc, comme je vous ai dit, jusqu'à 19 ans, puis il est reçu, d'ailleurs, à 19 ans, dès son premier essai, à cette fantastique école polytechnique à Paris. Mais, chose étrange, il en démissionne, avant même d'y entrer, pour se préparer, avec succès, à la fameuse école normale supérieure. L'école normale supérieure, c'est une pépinière de professeurs d'université, ça. Et il se joint immédiatement à un groupe réduit mais fervent d'étudiants catholiques. Vous connaissez ça, on les appelait les talas, c'est parce qu'ils vont à la messe, hein. Et c'est dans ce contexte que survient un événement vraiment capital dans sa vie spirituelle, c'est la rencontre avec Monsieur Portal. Monsieur Portal. C'est un pionnier bien connu dans le mouvement écuménique, ça, qui est encore à ses débuts dans ce temps-là. Fernand Portal, c'est un prêtre lazariste, donc disciple de Saint-Vincent de Paul, les lazaristes, hein, fondé par Saint-Vincent de Paul. Il avait eu des contacts suivis avec Lord Halifax de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, pendant les dernières années du 19e siècle, dans le but de préparer l'union des deux églises, l'Église anglicane puis l'Église catholique. Mais quelques années plus tard, le père Portal a été victime de la répression antimoderniste, hein, à cause de son ouverture d'esprit, imaginez. Alors, il a donc été déchargé de sa responsabilité à l'Institut catholique de Paris, qui est l'Université catholique de Paris, un institut catholique. Puis après la Première Guerre mondiale, il vivait à Paris dans une semi-retraite active, comme conférencier, prédicateur, conseiller d'étudiants, spécialement sus, justement, de l'école normale supérieure, qu'on appelle à Paris la normale sup. D'ailleurs, j'arrête là parce que je vais vous parler du père Portal le 22 mai. Bon, on a encore du temps. Je lui consacrerai toute une émission. Pendant la période donc de leur relation à Marcel Legault puis le père Portal de 1922 à 1926, juste avant sa mort, le père Portal fait connaître au jeune Marcel Legault quelque chose d'étonnant. Vous allez dire, mais c'est rien. Mais oui, c'était extraordinaire à l'époque. C'était une manière toute nouvelle pour lui d'aborder sa foi. En particulier quoi? Par un contact direct avec la Bible et surtout l'Évangile. Étrange. C'était dans les années 20. Je me souviens, quand on était jeune, hein, c'était assez extraordinaire de posséder des Bibles vers 1940. Et c'était nouveau. À partir de cette expérience, donc, Marcel Legault, ça s'appelle L-E accent aigu, G-A-U-T, hein? Il n'y a pas de L devant le T. Legault. Donc, à partir de cette expérience, Marcel Legault devait bien, des années plus tard, élaborer la conception éclairante de paternité spirituelle, peu de temps après sa sortie de Normale Sup, là, comme agrégé de l'université, puis docteur S sciences mathématiques, oui, puis un bref passage dans l'enseignement secondaire. Il est nommé en 1927, donc à 27 ans, professeur à la faculté des sciences de Rennes, en Bretagne, tout en gardant son domicile à Paris. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il vit alors avec quelques amis intimes, groupés en une sorte de communauté de style monastique. C'est assez étonnant. Je m'étendrai davantage là-dessus. Puis ils sont impliqués dans le mouvement lancé par le pape Pie XI, qu'on appelait l'action catholique, tout simplement. C'était si fort, ça, l'action catholique. Chez les étudiants, les ouvriers, etc., puis c'est comme disparu, hein. Les laïcs de tous les milieux étaient invités comme collaborateurs des évêques, en somme, hein, à porter témoignage de la foi catholique dans leur milieu professionnel. Et Marcel Legault et son groupe participent à cette action pour le monde enseignant, tout en gardant leur autonomie. Et c'est durant cette période que sont publiés ses premiers ouvrages, « Prière d'un croyant qui a fait tellement de bien », ça a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, « La condition chrétienne », puis « La communauté humaine ». Il s'opère dans sa vie, vers l'âge de 40 ans, là, un changement radical. C'est la Seconde Guerre mondiale, évidemment, 1939-1945, puis surtout la défaite militaire là, de la France en 1940. Ça marque un tournant majeur dans la vie de Legault. Il est mobilisé comme officier d'artillerie dans l'armée, puis il en vient à réaliser rapidement la superficialité, puis les déficiences de son expérience comme homme. C'est curieux, à 40 ans, il se réveille. Et là, depuis plusieurs années avant la guerre, il passait l'été à la campagne, dans le centre de la France, avec son groupe d'amis fidèles, c'était des catholiques. Il partageait le temps entre un cadre de prière exigeant puis le travail manuel, mais le sentiment de son échec personnel dans l'effondrement général de la société le décide à changer radicalement sa manière de vivre. Aussitôt après sa démobilisation, à l'automne 1940, c'est la fin de la guerre pour la France, parce qu'ils ont tout perdu, il achète dans les hautes collines, ou ce qu'on appelle les pré-Alpes, juste à la naissance des Alpes, là, qui dominent la vallée de la Drôme, un hameau, comme on dit, si vous voulez, un terrain, quoi, un grand terrain, où il y a quelques maisons, presque en ruine, après un abandon de plus de 20 ans, et son intention, c'est d'y vivre de l'élevage des moutons, mais sans abandonner son enseignement. Et pour cela, ben, il faut qu'il change d'endroit. Il enseigne en Bretagne. Alors là, il est nommé à l'université de Lyon, qui n'est pas très loin. Un mois auparavant, il était célibataire. Il était célibataire décidé, hein, jusque-là. Il avait 40 ans, et plus. Mais il a épousé, à ce moment-là, une femme de son groupe, qu'il connaît bien, et qui accepte de partager son aventure, puis il n'est pas long à réaliser l'impossibilité là, de mener de front son professorat à Lyon, à l'université, puis son activité manuelle, puis s'occuper de ses animaux, puis tout ça. En 1942, donc, il prend congé de l'université, puis il devient cultivateur-éleveur à plein temps, puis il va le rester jusqu'à ce que ses 6 enfants qui sont nés coup sur coup, là, de 1945 à 1952, ses enfants aient progressivement pris leur indépendance, hein, vers 1967. C'est assez curieux quand on lit sa vie que de voir que son confrère à l'école normale supérieure, qui était Jean Guiton, il avait prédit à Jean Guiton, « Tu seras académicien. » Et puis Jean Guiton avait dit à Marcel Legault, « Toi, tu seras berger. » Et pourtant, rien ne semblait préparer ce fils de professeur, agrégé de mathématiques, à la vie de berger. Mais Jean Guiton avait senti ça. Évidemment, ils avaient dû en discuter légèrement, hein. Mais seuls les chiffres semblaient l'intéresser Marcel Legault. Il dit, j'avais un mépris souverain pour les lettres et je lisais très peu. C'est donc un catholique fervent. Une autre passion l'attirait, c'était la vie spirituelle. La vie spirituelle. Elle devait le dévorer tout entier, hein. Donc, il s'est acheté son hameau, là. Ça s'appelait... Il y avait une affiche qui indiquait « Abbaye de Val-Croissant ». C'était une ancienne abbaye cistercienne. Les moines de Citeaux avaient abandonné les lieux, ça faisait longtemps. Puis avec sa femme et ses 6 enfants, donc Legault a pris la relève. Et puis ce grand et brillant universitaire a décidé de tout abandonner. Il est donc retiré dans les collines de Haute-Provence. Et Marcel Legault s'est fait berger. Donc la prophétie de Jean Guiton s'est réalisée, puis de l'ancienne abbaye, il y avait 3 corps de bâtiments qui subsistaient. Alors le nouveau maître des lieux en a ajouté un 4e, c'est sa maison, une bâtisse grisâtre, qui contraste avec les murs anciens. Et puis, petit à petit, là, il a retapé l'église abbatiale un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il en fait de l'église abbatiale? Ben, il la donne à ses 200 brebis, en guise de bergerie. Et c'est au rez-de-chaussée, là, dans la grande salle à manger, que cet écrivain berger puis sa famille prennent le repas. Et le soir venu, ben, par un escalier bien étroit, ben, il regagne sa chambre. C'est chichement éclairé, hein, par une petite fenêtre qui s'ouvre sur la cour. Puis dans un coin, il y a un lit surmonté d'un crucifix, une table encombrée de papier, puis une pendule baroque, là. Et puis dans l'autre coin, ben, il y a un buffet qui sert de bibliothèque. Et Marcel Hugo, c'est peut-être pas mauvais de le signaler, il avait une démarche de paysan, une démarche lente et lourde. Il avait un visage sec, mais un beau sourire. Puis toujours ce béret basque sur la tête, puis des chemises de laine, des vestes de velours, même des pantalons de velours, et puis corps du roi, comme on dit. Et il avait été baptisé le Giono chrétien ou le Taillard berger. Il a décidé, en 1964, finalement, de livrer au monde chrétien le fruit de toute une vie de méditation puis de recherche. C'était un résultat extraordinaire. 700 pages d'une typographie austère. C'est deux volumes au titre rébarbatif. L'homme à la recherche de son humanité, puis Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du christianisme, paru chez Aubier. On peut dire qu'une fois par génération, il y a une grande œuvre, hein, qui parvient à donner une nouvelle profondeur aux grandes réponses éternelles que nous nous posons, nous les êtres humains. Et c'était le cas de Marcel Hugo. Pour certains, en tous les cas. Pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui rejettent l'œuvre de Hugo. Il y en a qui vont plus loin encore. Hein. C'est deux livres difficiles, difficiles sans éclat, sans aucune concession au goût actuel, sont presque devenus même le bréviaire de ce 20e siècle finissant pour certaines personnes. Évidemment, il faut percer l'écorce des idées générales, puis il y a un style abstrait des fois, un peu trop systématique, mais il y a un raz-de-marée qui surgit, ça vaut la peine de faire l'effort. Hein. Ça a été traduit, en somme, par certaines personnes dans la langue de la rue, hein. Et dans ce temps-là, les mots de ce savant deviennent dynamite. C'est comme de la dynamite. Pour lui, quand on explique simplement sa pensée, la plupart, il dit, de nos contemporains, même s'ils sont puissants, ne sont que des sous-hommes. Il ajoute que le christianisme a échoué. Après 2000 ans d'histoire, les églises font leur bilan, et à première vue, c'est un constat de faillite. C'est dur, hein? Sous, dit-il, leur mince vernis chrétien, leurs fidèles restent des païens. C'est ce qu'il constate, lui. Est-ce qu'il a raison? Il ajoute, là je le cite, « Il faut reconnaître la dimension du désastre vers lequel, depuis des siècles, le christianisme s'achemine. L'heure approche avec rapidité où le christianisme sera acculé à une mutation dont son origine le rend certainement capable. Je dirais même qu'elle a toujours appelé secrètement cette mutation. Mais contre cette mutation se dresse toute son histoire. Le christianisme aborde des temps décisifs, hein, et ceux-ci le surprennent, le christianisme, dans un état de grave impréparation, dû à des siècles de conservatisme et de préoccupations plus politiques que religieuses, cachées sous des croyances plus intrépides que vraiment spirituelles. Il revient toujours à la spiritualité profonde. Mais précisément, dit-il, si les chrétiens savent suivre le chemin que Jésus a ouvert à ses disciples, il leur permettra de porter remède à cette impréparation, couronnée de satisfaction et de suffisance, qui conduira infailliblement le christianisme à la déroute finale. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cela? Est-ce que Marcel Hugo est un prophète qui dresse un réquisitoire? C'est en tout cas un cri jailli du cœur de cet homme. Il le disait même à l'âge de 70 ans, il l'a dit jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Parce que toute sa vie, c'est une quête spirituelle. C'est la méditation solitaire au fond d'un scientifique qui est retiré dans un désert pour réfléchir et pour prier. C'est peut-être une réflexion amère, impitoyable, qui débouche comme sur une vision pessimiste, peu rassurante de l'avenir de l'Église. Quelques semaines avant l'apparition de ses deux premiers livres, là, dans un article publié dans Études, la revue des Jésuites français, il apostrophait l'Église, son Église, comme il disait. Que lui disait-il? Ce que les êtres qui s'aiment sont capables de se dire. Hein? Oui, le verdict est sans concession. Hein? Sans concession, l'Église catholique est la plus menacée de toutes les confessions par les crises religieuses qui sévissent à l'ère de la science et de la technique. Il a dit d'ailleurs, la base sur laquelle s'est édifié le christianisme est suffisamment ébranlée aux yeux de beaucoup pour provoquer l'effritement puis l'écroulement rapide de la totalité des croyances et des disciplines religieuses. C'est dur, mais finalement, quand on le lit au complet, on voit qu'il est plein d'espoir, plein d'attente, plein d'espérance en Jésus-Christ, fondateur du christianisme. Je vous recommande un livre à son sujet, Un chrétien debout, paru chez Mediapol, ici à Montréal, oui. C'est écrit par le père Henri du Algouet, qui fait certaines réserves sur Marcel Legault, mais qui en est un très grand admirateur quand même. Grand admirateur, ce prêtre. À un moment donné, Marcel Legault, qui est un berger et en même temps un philosophe, il constatait à l'époque, dans les années 60, que les églises étaient encore pleines. Mais il disait que c'était par discipline, par prudence, ou encore par routine que les fidèles pratiquaient. Puis, or, peu de temps après, mais les églises se sont presque vidées. Elles étaient pleines. J'entendais le curé Philippe de Maupoux, dimanche dernier à Radio-Ville-Marie, dire qu'il n'y avait que 1% de pratique à Saint-Louis-de-France, ici à Montréal. Oh, d'autres paroisses, heureusement, c'est beaucoup mieux. Ça va jusqu'à 30%. En banlieue, ailleurs. Alors, une question se pose. Cette crise va-t-elle empirer? Alors, lucide, là, la réponse de Marcel Legault, qui est un chrétien, il dit, cette crise manifestera toute son ampleur demain, parmi les jeunes qu'elle aura perturbés dès l'enfance. Il ne s'est pas trompé. C'est un présage bien sinistre. L'ego appartient à la race de ces catholiques fervents qui s'aperçoivent que l'Église, comme il dit, malgré ses prétentions ou à cause d'elle, se perpétuait dans une médiocrité spirituelle certaine. Il aurait voulu une spiritualité beaucoup plus forte. Je crois qu'elle surgit dans l'Église. L'Esprit-Saint souffle. Faut espérer. Hein. La plupart des fidèles s'imaginaient que l'Église, qui est une institution divine et infaillible, ne pouvait pas être ébranlée. Alors, il a dit, il y a 25 ans, dangereuse sécurité, où se reposaient récemment encore les chrétiens les plus clairvoyants. Il prévoyait tout ça. Hein. Et tout est remis aujourd'hui en question, hein. Les mœurs, la morale, les manières de penser ou de sentir, de dire ou d'exprimer, jusqu'à l'exercice même de l'autorité. Il se passe toutes sortes de choses, on se demande où on s'en va. Il disait, tout est à reprendre à partir de la base. Il s'agit d'une mutation, non d'un simple aggiornamento. Elle donne le vertige à ceux qui la pressentent, disait-il. Alors, c'est pour ça qu'il a écrit « Mutation de l'Église et conversion personnelle », paru chez Aubier. Alors, à qui la faute? Tout a commencé au début du XXe siècle, dit-il. Oui, c'est la crise moderniste qui, par degrés, a déclenché celle qui sévit actuellement. En 1902, je vous explique, là, il y avait quelques prêtres. Hein, Loisy, dont je vous parlerai peut-être un jour, Tyrrell, se sont mis à poser des questions étrangement semblables à celles qui ont cours aujourd'hui. En somme, le christianisme ne doit-il pas faire un effort pour s'adapter à la mentalité moderne? Est-ce que les dogmes, est-ce qu'ils doivent rester enfermés dans ce qu'ils appelaient la gangue de formules fixées une fois pour toutes et aujourd'hui sans résonance dans la conscience des hommes? Est-ce qu'il ne faudrait pas les reformuler tout en gardant les vérités fondamentales? Il ne s'agit pas de nier les dogmes, il s'agit de les reformuler. Ne faut-il pas utiliser les méthodes de la critique scientifique, disait-il, afin de mieux comprendre la Bible aussi, hein? C'est ce que disaient ces gens au début du siècle. L'opinion chrétienne n'était nullement préparée à accueillir des interrogations comme celle-là, puis les novateurs ont été critiqués, puis aussi dénoncés. Il y a eu un vent de panique qui a soufflé sur l'Église, et puis le pape, comme vous savez, Saint Pie X, je vous ai fait une émission sur Saint Pie X aussi pour expliquer un peu tout ça, mais il a publié en 1907 l'encyclique Pacem Diem. Et le pape a fini par opposer au modernisme une fin de non-recevant, des plus catégoriques malheureusement. Et alors s'est déclenché dans l'Église une vague d'épuration sans précédent. Je me souviens quand j'étais jeune comme on avait peur de dire quoi que ce soit. Les professeurs de séminaires et d'universités qui ne donnaient pas toutes les garanties d'une orthodoxie rigoureuse ont été à cette époque-là impitoyablement mis au rencard. Mais il faut bien dire que Marcel Legault n'est pas un moderniste. Non, c'est pas un moderniste. Mais avec beaucoup d'autres, il redoudrait aujourd'hui le temps perdu. On a pu condamner les modernistes, avec raison pour bien des raisons, je dirais. Mais leurs questions sont demeurées. Elles ont longtemps couvé sous la cendre et elles risquent aujourd'hui de tout faire brûler. C'est parce qu'on n'a pas su les comprendre, mais surtout, on n'a pas su toujours leur répondre comme il aurait fallu le faire, semble-t-il. Heureusement qu'il y a eu le Concile Vatican II, heureusement. Il faut de toute urgence, disait Marcel Legault, répondre franchement à ces questions, une tâche beaucoup plus importante pour l'Église que les réformes pastorales ou les adaptations aux conditions sociales et politiques modernes, si nécessaire soit-elle. Mais malheureusement, disait-il, la manière dont l'Église jusqu'ici a réagi aux critiques ne l'a en rien préparé à surmonter cette crise par des moyens proprement intellectuels et spirituels. Il revient toujours à ça, hein. Il écrit d'ailleurs, hier, elle n'a su réagir que par voie d'autorité dans ce temps-là. Hein. Puis il ajoute, à quelques exceptions près, elle a répondu par des anathèmes, vous savez, des condamnations, aux objections philosophiques et historiques que la science moderne opposait à l'enseignement ecclésiastique sur les origines du christianisme et sa doctrine. Alors, rien d'étonnant, alors, on peut voir à ce que les jeunes abandonnent une religion qui n'offre à leur intérêt que ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Rien d'étonnant non plus à ce que les vocations sacerdotales soient si peu nombreuses. Hein. Marcel Legault affirmait encore, la crise actuelle du catholicisme ne sera pas dénouée de sitôt. C'est une prophétie qui aurait tous les relents d'un chant funèbre. Hein. Mais ce mathématicien berger, toujours et sans cesse, et passionnément attaché à sa foi, n'entrevoyait pas une issue. Il disait, oui, l'Église peut s'en tirer, mais à certaines conditions. Il disait, sans nul doute, l'Église sera conduite à une certaine décentralisation, ou même à une décentralisation extrême, qui rappellera la poussière des églises locales du temps des origines. C'est pas ce qu'il souhaite nécessairement, mais il craint ça. Des initiatives très diverses se produiront d'abord à l'intérieur de communautés réduites, dit-il. Et c'est vrai, toutes les communautés de base, tous les groupes de prière, les groupes d'études bibliques, les groupes de toutes sortes qui naissent actuellement dans l'Église, ici au Québec comme ailleurs. Hein. Puis il dit qu'il y aura une forte cohésion spirituelle, finalement, qui va naître. Et il ajoute socialement négligeable, ces groupes inorganisés, mais très organiques, vont conduire à une conception de l'unité de l'Église tout à fait nouvelle. Et il ajoutait, sans nul doute, que cette réorganisation sera une véritable reconstruction, car elle ne se produira pas avant que s'accumulent les ruines qui ne peuvent pas être imaginées de sang-froid, que seule la foi peut porter et concevoir comme nécessaire. Mais quel délai ne faudra-t-il pas pour que l'Église résigne des situations établies depuis des siècles et se détache de ce qu'il appelait la sécurité trompeuse que lui donne une doctrine mettant Dieu à son service, comme si Dieu était à notre service. Et il ajoute enfin, il va falloir que l'Église s'atteigne dans la nudité de la foi et la folie de sa mission, que l'Église se devienne passionnée et folle de sa mission, folle du Christ, que l'Église de demain sera pour le moins aussi différente de l'Église d'aujourd'hui, disait-il à l'époque, que celle-ci l'est de l'Église de ses origines. Alors qu'est-ce qu'elle va être? Ben, elle retrouvera la manière d'exister des premiers temps. Et il dit, elle aura du Christ une intelligence qui se rapprochera de celle des apôtres. Et Marcel Legault cloue au pilori les traditionnalistes, mais aussi les contestataires, qui retardent ou abattardissent les conversions. Est-ce que c'est un anarchiste, Marcel Legault? D'une certaine façon, il y en a qui le considèrent comme un anarchiste, mais il faut être sérieux, disent ses défenseurs. Si Marcel Legault critique, puis avec quelle vigueur parfois, ce n'est pas par goût du carnage. Son pessimisme n'est ni gratuit ni sans issue. Tout ce qu'il demande, après tout, c'est qu'enfin, l'Évangile ne soit pas pris à la légère. Tout ce que Marcel Legault demande dans ses livres, après tout, c'est qu'enfin l'Évangile ne soit pas pris à la légère. L'Évangile, encore faudrait-il savoir ce qu'il représente, et pour Marcel Legault, c'est avant tout le livre de la vie de Jésus, cet homme inouï, en qui peu à peu ses disciples, en vivant avec lui, ont reconnu leur Dieu. Cet homme qui n'a jamais cherché à imposer une discipline, une autorité, et qui s'est contenté d'appeler en disant, il parle souvent de l'appel de Jésus, « Si tu veux, suis-moi ». Il appelle ça l'appel qui continue à retentir à travers les siècles. Mais de cet évangile, qu'a-t-on fait? Mais d'après Marcel Legault, on en a fait la charte d'une religion nouvelle. On y a vu l'exigence d'une institution fortement hiérarchisée, le germe d'une idéologie bientôt totalitaire, les interdits d'une morale davantage axée sur le mal à éviter que sur le bien à faire. Or, depuis son temps, les choses ont bien changé. Notre Église est beaucoup plus portée à mettre en application ce qu'il souhaitait. Le Christ avait-il prévu cette évolution, à vrai dire inévitable? L'ego n'y va pas par quatre chemins. Et cette évolution indissociable, un mélange de fidélité puis de trahison, a commencé dès la première génération chrétienne. Placés devant la nécessité d'organiser la vie des premiers disciples, les apôtres, dit-il, et leurs successeurs, ont été amenés à codifier de plus en plus le message de liberté qui leur avait transmis leur maître. Et ainsi, d'une religion d'appel, le christianisme devait peu à peu redevenir une religion comme les autres, une religion d'autorité comme le judaïsme et plus tard l'islamisme, qui sont des religions d'autorité. Et c'est ainsi que l'histoire a falsifié l'Évangile. Mais pouvait-il en être autrement? C'est une situation sans issue. Une Église de petit reste. Il dit, « Seuls les êtres vigoureux spirituellement pourront croire en Dieu, en Jésus et en l'Église. » Croire vraiment, là. Alors, une Église de petit reste, en somme. En réalité, il s'agit d'une véritable révolution, selon lui. Et pour être fidèle au Christ, l'Église doit renoncer à presque tout ce que l'histoire a fait d'elle et qu'elle en est venue à considérer comme indispensable, selon lui. Renoncer à quoi? Ben, il souhaite qu'elle renonce à son organisation sèche pour accepter une décentralisation qui devient humaine. Renoncer aussi à sa pédagogie trop magistrale, où il y a des formules, hein, parce qu'il voudrait que l'Église laisse couler à nouveau la vie. Il voudrait aussi que l'Église renonce à une discipline devenue trop universellement rigide, pour laisser le chemin libre aux conditions particulières. Il voudrait aussi que l'Église renonce aux paroisses trop nombreuses et anonymes, pour que surgissent partout des milliers de petites communautés spontanées qui seraient les seules véritables cellules d'Église. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie solution. Elle peut être partiellement, à mon avis, la solution, mais je trouve que parfois il exagère. Et tout cela pour que soit enfin remis en honneur, dit-il, le seul élément véritablement essentiel du christianisme, c'est la marche à la suite du Christ. Hein? On voit qu'il... Il n'a pas vu les émissions qu'on a vues récemment à les foules d'un million ou de deux ou même quatre millions à Manille qui se rassemblent. Me semble que ça donne des suites, ça. Mais lui, il n'aime pas tellement ça. Alors, en attendant, qu'est-ce que doivent faire les chrétiens d'après lui? Bien, ici, l'ego laisse apparaître, à travers la dureté de sa critique, la profondeur de son attachement à l'Église. Il n'est pas anarchiste. Au contraire, pour lui, le chrétien lucide ne doit ni s'en aller, ni contester violemment. Mais dire ce qu'il a à dire, puis attendre en essayant pour son compte de vivre aussi fidèlement que possible la religion d'appel, répondre à l'appel de Jésus. Ce que lui, le savant devenu berger, des mathématiciens, il a fait toute sa vie. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est comme ça qu'il est allé se retirer dans les montagnes et qu'il a souhaité devenir vraiment un berger, mais un saint. Il a, quand il était à Paris, il publiait jusqu'à 1500 exemplaires de méditations rédigées par lui-même. et ses feuilles se répandaient partout. Il avait un rayonnement énorme. Mais elles ont été dénoncées auprès des autorités ecclésiastiques et Marcel Legault va les réunir en un livre. Et puis, comme il dit, pour ne pas être mis à l'index, j'ai fait préfacer l'ouvrage par Mgr Verdi, alors cardinal de Paris. Puis en quelques semaines, Prière d'un croyant a atteint 20 000 exemplaires. C'était un des livres les plus populaires dans sa jeunesse. Et puis, comme le constate le fameux père Douin, c'est un ami du père Legault, il dit « Ce qui s'est fait de plus valable en milieu universitaire, sur le plan spirituel entre les deux guerres, c'est à lui et à ses groupes qu'on le doit. » Alors donc, après avoir été ce chrétien militant, il est devenu ce chrétien de réflexion. Seul un croyant peut aller de façon utile jusqu'au bout d'une erreur tant il le fait avec tout son être, dit-il. Les intellectuels ne font que jouer avec elle, légère comme une danseuse. Mais si mes livres, ou si les livres d'un intellectuel catholique sont gravement erronés, la vie de cet homme n'aura pas été consumée en vain. Dans ces conditions, avoir eu à les écrire est un honneur peu recherché qui lui aurait été réservé. Honneur du serviteur fidèle, cependant, car cette tâche était bien la sienne. Au fond de lui-même, Marcel Legault garde longtemps une tranquille assurance. Qu'il se soit trompé ou non, on peut dire que les questions qu'il a posées à la conscience chrétienne demeurent les vraies questions. Il faudra bien que l'Église y réponde un jour. Je vous rappelle que Marcel Legault est décédé un 6 novembre 1990, il y a 7 ans, aujourd'hui. Si Marcel Legault a eu une grande influence dans le milieu universitaire quand il était professeur, s'il a eu une grande influence par après quand il a eu sa bergerie et puis qu'il a élevé tous ses enfants, jusqu'en 1967-70, il y a eu une troisième période de son existence, sans rupture avec la précédente. En 1970, alors qu'il vit déjà seul dans une petite ferme voisine de là où il était, sa femme étant morte, eh bien, il réussit à faire publier un ouvrage de plus de 400 pages, intitulé « Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du christianisme ». Et en fait, il avait présenté un manuscrit de plus de 700 pages, comme je vous ai dit tout à l'heure, sous le titre « L'accomplissement humain ». Et c'est l'éditeur qui avait décidé, pour des raisons pratiques, là, de couper ça, « L'homme à la recherche de son humanité », qui est paru l'année suivante aussi. Puis, il y a eu « Mutation de l'Église et conversion personnelle » que je vous ai beaucoup vanté. Puis, « Intériorité et engagement » en 1977. Mais il avait publié aussi en 1974 « Question A, réponse 2, Marcel Legault, un chrétien de notre temps ». C'est un tout petit livre qui est très intéressant, où il dit « Je reste fidèle à l'Église car je crois en elle. L'Église a les promesses de Jésus ». Et l'assurance que Jésus avait en sa mission constitue davantage la base de mon assurance en la pérennité de l'Église que la confiance qui m'inspire la manière dont on la gouverne depuis des siècles. L'Église va survivre à toutes les difficultés qu'elle rencontrera. Et d'autre part, je pense que l'Église ne peut se convertir que par le dedans. Ce n'est pas en bousculant l'Église du dehors qu'on peut la changer, mais par un travail secret, fait dans la foi, inspiré par le respect et la culture de toutes les exigences de l'intégrité humaine. Travail patient, silencieux et, s'il le faut, douloureuse passion. Et puis, il a publié aussi un dialogue avec Bernard Feuillet. C'est magnifique, ça. Patience et passion d'un croyant. Il y a une belle photo de lui sur le dessus, ça. C'est publié en 1976. Et puis, l'édition revue de ce livre est parue en 1990, quelques mois avant sa mort. Une dizaine d'autres volumes d'importance variée sont parus entre 77 et 90, sans oublier des textes renéotypés, des notes. Oh, j'en ai beaucoup, c'est superbe. Il a publié aussi « Méditation d'un chrétien du XXe siècle » en 1983 chez Aubier. Puis un homme de foi et son église chez Desclés de Brouwer, ça c'est en 88. Ce sont de bons gros bouquins, mais très intéressants. Donc pendant les quelques 20 ans de cette période, Marcel Legault a passé le plus de temps possible dans cet ermitage là qu'il avait, puis organisé un meublé avec une extrême simplicité. C'est de l'austérité, de la pauvreté, ça caractérise le reste de sa vie. qui est axé sur la prière puis l'écriture. Mais le plus souvent, s'il ne le voudrait, il est arraché à sa solitude par des retraites. Il prêche des retraites. Il prêche des sessions aussi. Il donne des sessions. Il donne des conférences en quantité. Il fait des séjours parmi ses amis réunis à la magnanerie de Mirmande et bien d'autres requêtes du même genre, sans oublier sa famille, ses enfants. C'est en répondant à l'un de ses appels, d'ailleurs, qu'il est mort en voyage. Marcel Legault, c'est un homme solide, qui avait des gestes sobres. C'est un homme profondément attachant. Il avait une indifférence pour son aspect extérieur. Il était doué d'une intelligence pénétrante et qu'une logique qui venait probablement de sa formation mathématique. C'est Marcel Legault, on peut dire que la pensée et la vie sont inséparables. Tout ce qu'il a écrit a d'abord été vécu, s'est ensuite approfondi tout au long de sa vie, jusqu'au dernier moment. Marcel Legault, savez-vous, n'a jamais été publiquement censuré par l'autorité de l'Église pour ses propos audacieux, à quelque niveau que ce soit. Il y a évidemment eu des jugements privés, quelques articles, des ouvrages pour le critiquer, mais assez pauvrement d'ailleurs. Il n'y a pas eu de sanction officielle. La situation de l'Église est-elle pire aujourd'hui qu'elle l'était à ses débuts, avec le groupe infime des croyants comme noyés dans un monde indifférent ou hostile? Mais si Legault donne parfois l'impression d'avoir perdu l'espoir en son avenir, il n'a jamais cessé de rayonner l'espérance fondée sur la foi, je le répète. Ce qui l'a réconforté jusqu'à la fin, et ce qui chassait de lui toute peur, c'est pas pour lui le tapage autour de certaines vedettes spirituelles ou religieuses de l'Église, ni les grands rassemblements coûteux d'après lui, qu'il jugeait bien éphémères. Il disait que ça générait des illusions. Pour lui, ce sont les petites communautés de foi fermes qui surgissent un peu partout. Dans un livre de prière, qui s'appelle « Prière d'homme », paru en 1978, il écrit au Père « Que votre être s'accomplisse tout inconsistant que nous sommes. Faites-nous exister en nous-mêmes, dans l'unité, comme vous êtes un. Donnez-nous de croire en notre prochain, comme vous croyez en nous-mêmes. De le suivre, notre prochain, en son cheminement, comme vous nous suivez vous-même. Aidez-le à tirer un bien du mal que nous lui avons fait, volontaire ou inévitable, pour qu'il s'en libère et puisse nous absoudre, comme vous rendez utile pour nous le mal que nous avons commis, celui que nous avons subi, ce dont nous vous bénissons. Inspirez-nous une intelligence des événements, même les plus déchirants, qui nous les rendra bienfaisants, qui nous porte à connaître notre condition d'homme, qui nous fasse approcher des frontières de la vie, du seuil de l'absolu, si proche du néant, qu'ils aiguisent notre foi, s'ils écrasent nos croyances, qu'ils transpercent notre cœur et ferment notre bouche, mais nous laissent la foi. Ô Jésus, l'homme juste, le Saint de Dieu, Fils de l'homme, ferment de l'homme, appel de Dieu, Fils de Dieu, seul Maître, seul Seigneur, notre Père sur cette terre. Parce que vous avez été signe du Dieu impensable et de l'homme accompli pour l'être qui vous accueille. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à Marc-Alexandre à 374-3785. 374-3785. La musique était choisie par Jean-Pierre Noiseux. À la production technique, Nicolas Diouskine, et nous vous invitons à être à l'écoute demain, au besoin ce soir pour la reprise à 10h. Demain, c'est Frank Duff, mort en 1980, un Irlandais, un laïc, fondateur de la Légion de Marie, considéré comme un saint.